Vous écoutez RTL. RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
Avec Jérôme Chapuis.
Toute la semaine dans Laissez-vous tenter, tout ce qu'il faut retenir de l'année 2017. Et aujourd'hui, des romans, des BD avec Bernard Lehu, Monique Younes. Mais avant toute chose, bonjour Isabelle Morini-Bosque.
Bonjour.
Les audiences.
Eh bien, on retiendra un seul chiffre et il me fait plaisir, c'est le succès de Mystère au Louvre. Nettement en tête des audiences avec 4 500 000 téléspectateurs et près de 20% du public sur la 2.
Vous nous en parlez
devant,
hier
donc,
matin.
Voilà, ouais. Devant Esprit Criminel, deuxième, et Maison à Vendre, troisième, c'était une rediffusion, donc c'est bien.
Alors, Isabelle, place ce soir au divertissement, selon vous.
Oui, et on commence par France 2 qui tente à 20h50 Les Enfants de la télé, un concept repris avec succès par Laurent Ruquier le dimanche après-midi. Comme les pâtes aux œufs frais, la formule est enrichie à 20h50, mais les fondamentaux restent les mêmes et Laurent Ruquier est légitime dans le rôle. Il ne fait pas d'ailleurs de fausse modestie.
Je suis même arrivé chez mes parents en même temps que la télé. En 63, mes parents ont acheté un téléviseur et je suis né. Vous voyez, vraiment, je ne peux pas être plus un enfant de la télé. Moi, si j'ai été candidat à la présentation, c'est évidemment parce que j'estime, j'espère, que j'avais les compétences. Il fallait quelqu'un capable de vous dire que la fille qui présentait les premiers résultats du loto s'appelait Annie Poirel. Sur les années 60, 70, 80, voire même 90, je suis assez incollable.
C'est parfaitement exact. Avec ce soir, entre autres invités grand public, une certaine Dorothée. Voilà, qui a quand même rempli des Bercy, des Zénith, de l'Olympia. Une sacrée petite bonne femme.
Alors, quel est l'autre divertissement, puisqu'il y en a plusieurs ce soir?
30 ans de musique sur M6, on reste d'ailleurs dans les enfants de la télé, puisqu'on l'a oublié, mais la chaîne, en revisionnant, c'est évident, la chaîne a eu des émissions cultes incroyables, adorées par les vedettes mondiales, comme Dance Machine, qui a lancé David Guetta, et surtout Hit Machine, plébiscité par Mariah Carey, Rihanna, Justin Timberlake, Robbie Williams, Prince et les autres, tous fous des présentateurs Charlie et Lulu.
Je m'appelle Charlie, et je m'appelle Lulu.
Voilà. Quant à la France, un incroyable talent, elle a précisément découvert d'incroyables talents comme Marina Kaye, la jeune Erza qui est maintenant dans les Kids United, sans parler de la nouvelle star qui a vu naître Christophe Willem, Camila Jordana, on le sait, ou Julien Doré, lui, c'était pas gagné.
Il y a eu plein de souvenirs, mais je pense que celui qui reste gravé, c'est ce moment où on m'a demandé de sortir du casting. Parce qu'en fait, j'avais prévu une chanson que je devais jouer avec mon ukulélé. Et c'est Marianne James qui m'avait dit que je devais d'abord faire une chanson a cappella. Et je lui avais dit que j'en avais pas. Voilà, elle m'a dit de sortir. Donc je suis sorti. Et sans doute que si on m'avait pas rattrapé, je serais reparti chez moi. Et que peut-être tout ceci ne serait pas là aujourd'hui.
Et oui, vu cette ignace, j'ose pas dire que c'est joué à un jeu.
Mais si, vous osez.
L'émission est également célèbre pour ses casseroles.
Que vais-je faire?
Prendre tes affaires et dégager de là.
Oh. Le problème, c'est que vous avez l'expression d'un acteur de film porno quand vous chantez. C'est-à-dire, vous savez, ils font l'amour, mais on sent qu'ils ne ressentent rien du tout.
Voilà, tout cela est dit. Et que dire de Graines de Star qui a vu naître Alizé, Jennifer, Bruno Solomon, Jérôme Commandeur, Jean Dujardin, etc., etc. Sans oublier, 5 ans avant la Starac, Grégory Lemarchal.
Et partout dans la ruche, qu'on parle de moi, que les filles saluent, qu'elles se jettent.
Et bien sûr, il sera beaucoup question de Johnny dans cette soirée, invité régulier de la chaîne dans toutes ses grandes spéciales. Et comme on est en période de Noël, pour moi, son Noël interdit s'impose.
Noël. Pour les enfants perdus, pour tous ceux qui n'y ont jamais cru.
En voilà un beau cadeau, merci Isabelle.
Moi,
merci
les chants de Noël, beaucoup. J'en raffole.
Allez, la suite de Laissez-vous tenter dans un instant, le bilan de cette année 2017, les romans, les BD, ce sera avec Bernard Lehu et Monique Younes, bien entendu.
RTL Matin,
Laissez-vous tenter
avec Jérôme Chapuis.
Et dans Laissez-vous tenter toute la semaine, nous poursuivons notre rétrospective de cette année 2017. Et aujourd'hui, un tour dans les librairies en compagnie de Monique Younes et de Bernard Lehu. Je commence par vous, cher Bernard, bonjour.
Bonjour.
Dans les librairies et dans le monde de l'édition, une fois n'est pas coutume, nous avons assisté cette année à un transfert.
Ah oui, alors aussi retentissant à l'échelle de ce milieu que l'arrivée de Neymar au PSG, l'écrivain le plus lu des Français, Guillaume Musso, une nouvelle fois d'ailleurs numéro 1 des ventes en 2017, a quitté son éditeur historique XO pour rejoindre la vénérable maison Calman-Lévy. Un véritable coup de tonnerre, hein, bien sûr, qui tient davantage ici d'une histoire d'hommes et d'amitié que de colossales sommes d'argent comme dans le foot.
Les grands noms se sont bousculés cette année chez les libraires.
Et oui, le printemps a été féminin, avec deux des romancières les plus populaires, Fred Vargas tout d'abord, et son nouveau polar à succès, La Recluse.
C'est une petite araignée qui s'appelle Loxosceles rufescens, et je connaissais même pas son nom latin quand l'idée est venue, et je ne n'avais pas lu, je n'avais pas vu d'araignée, je ne suis pas arachnophile et il ne s'est rien passé spécial, ni arachnophobe. J'ai dit, il n'y a plus qu'à construire une histoire autour d'elle. Mais j'en ai bavé parce qu'elle n'est pas mortelle, parce qu'elle crache à peine de venin, parce que.
Toujours aussi inattendu, Fred Vargas. De son côté, Anna Gavalda publie un recueil de nouvelles, sensible, bien sûr, comme elle sait le faire, fendre l'armure, et elle accordait une de ses rarissimes interviews à Laissez-vous tenter.
Ce qui m'intéresse des êtres humains, c'est justement ce que nous avons tous en commun. Et ça n'a rien à voir avec l'âge, ça n'a rien à voir avec le milieu social, ça n'a rien à voir avec le bagage culturel et ça n'a rien à voir probablement avec le sexe. Ce que j'aime de mes personnages, c'est leur humanité. Bon, il y a même un chauffeur routier. À la fois, il y a un chauffeur routier et puis il y a aussi un patron d'une très grosse entreprise. C'est ça qui m'amuse, quoi. C'est que j'aime être dans la peau du chauffeur routier et j'aime être dans la peau du type qui se bat avec son commissaire au compte. Ça m'intéresse. Et en fait, ce sont les mêmes.
Anna Gavalda-Bernard, en 2017, on a aussi connu un automne de Nobel.
Mais oui, avec nos deux Français nobélisés, Patrick Modiano et Jean-Marie-Gustave Le Clézio, signaient leur grand retour au roman à quelques jours d'intervalle en octobre. Eux aussi étaient dans Laissez-vous tenter. Alors, le Nobel a-t-il changé l'écrivain Modiano ?
C'est-à-dire que vis-à-vis de la littérature, on est en face des mêmes problèmes que avant si le Nobel n'avait pas eu lieu. C'est-à-dire une fois qu'on se retrouve devant la page blanche, on est le même que même à ses débuts, parce que en fait, c'est sans arrêt une confrontation. On se demande si on va pouvoir encore remplir la page blanche.
Voilà, Modiano en VO. Le Clézio, lui, nous offrait son livre le plus personnel, Alma, consacré à la terre de ses ancêtres, l'île Maurice.
Oui, c'est pour moi une confession, parce que souvent on me dit mais vous ne parlez pas de Maurice. Et je dis, mais en effet, je parle d'une Maurice qui est imaginaire, qui est un secret de famille. Mais c'est quelque chose qu'on m'a donné quand je suis né. Quand je suis né, les premiers mots dont j'ai entendu parler, c'était des mots qui se rattachaient à Maurice. Et c'était même des mots en créole, parce que mon grand-père parlait en créole. Donc, je ne suis pas né à Maurice, mais je suis né dans un bain mauricien, mais c'était une île imaginaire, essentiellement.
Et puis Bernard, parlez-nous des grands prix littéraires de cet automne.
Alors, inspiré par les grandes tragédies du XXe siècle cette année, la barbarie nazie dans l'ordre du jour d'Éric Vuillard, prix Goncourt, et la disparition de Joseph Mengele et d'Olivier Guèze, prix Renaudot, mais aussi le colonialisme et le drame des harkis en particulier, dans L'art de perdre, Goncourt des lycéens, d'une romancière surdouée de 31 ans, Alice Zeniter, submergée par l'émotion.
Je voudrais remercier toutes les équipes qui ont encadré le Goncourt des lycéens pour que cette transmission soit possible. Et je... Oui. Non, vraiment, je suis désolée, je suis très émue. Et du coup, j'ai oublié ma fin. Donc, n'ayons pas de fin, restons en mouvement. Et que cette histoire continue encore.
Voilà, alors à chaque année, il y a ces révélations, et en 2017, la révélation s'appelle Laetitia Colombani.
Avec son premier roman, La Tresse, mettant en scène trois héroïnes inoubliables, Laetitia Colombani signe un hymne au courage des femmes, et surtout le best-seller surprise de 2017, on en est à plus de 300 000 exemplaires.
Et puis deux monstres sacrés ont fait un passage remarqué au micro de Laissez-vous tenter.
Dan Brown, à l'occasion de la parution de son nouveau thriller, Origine, et derrière l'écrivain à succès, Chercher la femme.
I like mysteries. You know, Blythe...
J'aime les mystères. Blythe est fantastique. Elle a été ma première lectrice. Quand je termine un chapitre, c'est toujours elle qui me lit en premier. Et nous voyageons souvent ensemble. Pour Origine, il est beaucoup question d'art moderne. Et ça n'est pas tellement son truc. Elle m'a donc dit, débrouille-toi et bonne chance. Il est aussi question de technologie qu'elle ne connaît pas trop non plus. Et donc, pour ce roman, je me suis senti un peu plus seul que d'habitude. Mais on a passé du bon temps à repérer les lieux.
Autre monstre sacré, Gérard Depardieu.
Oui, alors il a chanté Barbara sur scène et sur papier, l'acteur a livré de touchantes confidences dans Monstre, justement, où il évoque notamment la mort à laquelle il faut se préparer.
Je pense que ça serait le nier, ça serait être pauvre. D'abord, on meurt pas. Moi, je vis avec mes morts sans arrêt. Et je vois des choses et je pense à quelqu'un. Bien souvent, je, avec le scooter, je vois des choses que Barbara pouvait voir. C'est elle qui me fait signe, me dit « Regarde ça, c'est beau. Ah, je dis, c'est toi. » et François, enfin tout, Guillaume, mon père, le Dédé, la Lilette, tout ça, c'est très bien.
La mort, puisqu'on en parle, 2017, Bernard s'est achevé par un bien triste chapitre.
La disparition de Jean d'Ormesson le 5 décembre, Jean Do nous avait accordé sa dernière interview le 7 juillet en Corse, où il aimait passer ses vacances.
C'est évidemment un des plus beaux paysages du monde.
Vous allez vous baigner, Jean ?
Oui.
Les bains de mer, vous leur consacrez un très beau texte, un très beau passage dans C'est une chose étrange, à la fin que le monde. Est-ce que je peux vous demander de lire la fin de ce texte ?
Ce qu'il y avait de bien dans ces bains, dans cette mer, dans ces oliviers, ces pins qui tombaient des montagnes, c'est que toute pensée et presque tout sentiment, excepté le bonheur, en était expulsé. J'étais un fragment du paysage. J'étais là et je ne pensais à rien entre le ciel et la mer.
Jean d'Ormesson. Nous ont quitté également cette année Anne Wiazemski, Françoise Héritier, Gonzague Saint-Brice, Jean Anglade, le Pagnol Auvergnat et Max Gallo. L'académicien, fils d'immigrés italiens, n'avait jamais oublié ses origines, y compris en chanson.
Au partigiano, portami via. Oh bella ciao, 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 ciao. Oh partigiano, portami via, che mi sento di morir. Bref, arrêtera là.
Bella ciao, l'hymne des résistants italiens que le père de Max Gallo lui chantait dans son enfance.
Ciao, ciao. Merci Bernard Lehu. Et je me tourne vers Monique Younes. Bonjour Monique.
Bonjour.
2017 aura aussi été une année riche pour la bande dessinée, riche en blockbusters. Et apparemment, les maisons d'édition généralistes sont de plus en plus nombreuses à s'intéresser au 9e art.
Et à la faire de plus en plus sérieusement. Prenez l'exemple de Michel Lafon, qui, pour lancer son département bande dessinée, a convaincu Gad Elmaleh d'adapter les sketchs de son personnage Leblon. Vous savez, ce beau gars à qui tout réussit.
Un peu agaçant.
Voilà. Et Gad était ravi.
Michel Lafon m'a dit, pourquoi tu ferais pas une BD du Blond ? Je dis, mais je sais pas dessiner. Elle a rigolé. Elle m'a dit, non, mais tu feras pas les dessins. Tu fais les dialogues, tu écris l'histoire et nous, on a des gars formidables. On a vu des dessins de plein de dessinateurs et il y en a deux qui m'ont tapé dans l'œil. Parce que les dessins qu'ils ont faits, avant tout, ils étaient tendres et ils n'étaient jamais moqueurs.
Alors les thèmes traités par la bande dessinée en 2017 se sont formidablement diversifiés. Alors aux côtés des grandes séries comme L'Enfeuse, Torgal, Corto Maltese, on trouve des récits intimistes comme notre excellent Grand Prix RTL de la bande dessinée La Terre des Hommes de l'auteur italien Jippi, mais aussi beaucoup d'albums évoquant des thèmes de société comme celui de la blogueuse Emma Un autre regard paru chez Masson Éditions.
La bande dessinée qui s'intéresse de plus en plus à la politique aussi.
Mais bien sûr, le Front National, les campagnes électorales, la vie des députés, on ne compte plus les bandes dessinées politiques, mais aussi celles qui parlent de philosophie et de science. Et la grande réussite de cette fin d'année est l'album de Marion Montaigne, Dans la combi de Thomas Pesquet. Le spationaute lui a permis d'avoir accès à tout son univers, et Marion a raconté avec beaucoup de finesse et d'humour l'aventure de Pesquet dans l'espace, de sa sélection pour faire partie de la mission Proxima à son retour sur Terre. 200 pages vraiment passionnantes, dont Thomas Pesquet en est dingue.
C'est une bande dessinée qui, moi, me fait mourir de rire. L'histoire de cette aventure qui a été la mienne d'aller dans l'espace et qui parle de tout ce qu'il y a de drôle là-dedans, de tout ce qu'il y a de, parfois d'un petit peu absurde. Et en même temps, c'est une bande dessinée où on apprend plein de choses parce que dedans, tout est vrai ou presque. Mais en tout cas, tout est techniquement correct. Il y a eu beaucoup de recherches qui ont été réalisées.
Et le travail paye puisque l'album Dans la combi de Thomas Pesquet, sorti le 24 novembre, vient de dépasser en un mois les 75 000 exemplaires. Un démarrage digne d'une fusée spatiale.
Certes, certes Monique, mais alors aucun album, aucun, nulle part dans le monde, n'atteint les ventes d'Astérix.
Et n'atteindra jamais, c'est impossible. Parce que sorti
avec la potion magique, évidemment.
Octobre, Astérix et la Transitalique atteint aujourd'hui les 1 200 000 exemplaires. L'histoire à la fois originale et évidente, imaginée par Jean-Yves Ferry et dessiné par Didier Conrad, plaît au lecteur de 7 à 107 ans.
Rappelez-nous l'histoire, Monique.
C'est Astérix et Obélix qui font le tour d'Italie, sauf qu'ils ne le font pas à vélo, mais à bord d'un char. Ils vont donc traverser l'Italie du nord au sud. Ils sont également inscrits à ce giro antique des représentants des différents peuples de l'époque. Il y a des Romains, des Bretons, des Étrusques, des Spartes, des Lusitaniens et même les princesses couches. Les sœurs, toute une affaire, et ni fait ni affaire. Ils y tiennent les rôles des sosies, des sœurs Williams, et Jean-Yves Ferry et Didier Conrad les adorent.
Didier les a voulu hyper sexy. Moi, j'ai dit rallonge un peu les jupes quand même, parce qu'on est dans Astérix. L'espèce de ticket qu'a Obélix avec l'une d'entre elles tourne court.
C'est triste ça, elles ne sont intéressées que par les chiens.
Ça, c'est l'idée de Jean-Yves, je ne suis pas responsable. Et c'est Jean-Yves qui veut absolument qu'Obélix reste célibataire.
Moi, un côté irrationnel d'Obélix, ça me plaît bien. Alors, j'essaie de m'infiltrer dans la petite tête d'Obélix, quelques neurones qui se battent en duel, et voir un petit peu quelle tendance pourrait en sortir.
Bon, et alors, la deuxième vente de cette année, c'est qui, Monique ?
Petit œuf, avec 250 000 exemplaires, selon Edistat. Son auteur Zeb fêtait cette année le 25e anniversaire de son héros par un album à gag. Petit œuf à fond le slip aux éditions Glénat, et dans lequel Petit œuf se pose des questions sur son orientation professionnelle, mais il a aussi des préoccupations philosophiques. Petit œuf sur la guerre, les religions, l'existence de Dieu, les films porno ou le menu du dîner. Passer du coq à l'âne, c'est le propre à l'enfance, disait.
C'est le propre de l'enfance, c'est d'être curieux, d'être grave, mais d'être rigolo, d'être potache, enfin de changer tout le temps. Pour lui, faire le grand, c'est imiter les grands, et ce qu'il comprend, c'est toujours ce qui est faux. Enfin, il pense que si les filles sont amoureuses de George Clooney, c'est parce qu'il boit du café. Le livre, il est toujours teinté de la période dans laquelle je dessine. Cette période, elle a été fortement marquée par les élections présidentielles. Je me suis dit, tiens, ce serait marrant de mettre aussi Titeuf dans cette histoire d'élection. Qu'est-ce que ça veut dire? Quelle responsabilité ça implique? Et donc, il se présente comme délégué de classe, mais il est pris dans la fièvre du pouvoir.
2017, marqué aussi par le retour du héros milliardaire, Largo Winch, avec un nouveau scénariste.
Parfaitement, et c'est le dessinateur de Largo Winch, Philippe Franck, qui a proposé à l'auteur de Polar, Éric Giacometti, de remplacer Jean Van Hamme, qui ne voulait plus continuer la série. Et Éric Giacometti savait qu'il était attendu au tournant.
Vous savez, je suis passé par le stade d'émerveillement. C'est extraordinaire qu'on propose un tel personnage bigger than life. Et une phase de peut-être de panique, parce qu'il faut se mettre au niveau de Van Damme et puis du dessin de Philippe. Quand on a parlé, quand il m'a proposé de reprendre l'argot, il m'a dit, écoute, moi je veux bien qu'on revienne aux fondamentaux, le thriller économique. Et très vite, c'est interactif, on s'est dit, c'est la finance. Expliquer ce qu'est la bourse de nos jours, et c'est ce que faisait avant l'argot. L'argot, c'est nous expliquer le monde de l'entreprise, de l'économie.
Il faut croire que l'économie est un thème économiquement rentable, puisque ce 21e album de Largo Winch, très réussi, a dépassé les 100 000 exemplaires.
En 2017, comme tous les ans, Monique, on a également eu droit à des records de vente aux enchères pour des planches de bande dessinée.
Cette année, c'est Uderzo, avec la couverture du bouclier Arverne, ayant appartenu à Pierre Tchernia, qui s'est envolé à Drouot sous le regard fasciné de notre reporter, Marie Mollet.
200 000, 250 000, 400 000, 850 000.
850 000.
Si vous voulez.
Qu'est-ce qu'on fait ?
1 million.
1 million.
1 million 100 000.
Oui.
1 million 150 000. Vous êtes sûr ?
1 million
150 000, que dit-on ?
1 million 150 000 euros avec les frais, soit 1 450 000 euros pour cette couverture en couleur peinte à la gouache de l'album Le Bouclier Arverne, dédicacée par Goscinny et Uderzo pour Pierre Tchernia. Un record pour Uderzo qui a fêté cette année ses 90 ans. Voilà une bonne astuce pour combattre les effets indésirables du vieillissement, battre des records de vente.
Merci beaucoup Monique Younes, merci Bernard Lehu. Et nous retrouvons l'équipe de Laissez-vous tenter pour la suite et la fin de cette rétro 2017. Ce sera demain. Dans quelques instants, Julien Courbet arrive. Et il est 9h30 sur RTL. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain matin avec Anne-Sophie à 6h30. Voilà, comme tous les jours de cette semaine. 9h30, il est donc temps de laisser la place à Julien Courbet et à toute son équipe. Bonjour Julien.
Merci beaucoup mes amis des infos.
Vous écoutez RTL.